Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur 90 minutes info. On va revenir bien évidemment avec nos invités sur l'actualité forte de ce lundi, la victoire de l'Union des droites en Italie et beaucoup de critiques et de réactions dans toute l'Europe. Mais pourquoi cette victoire est-elle le signe d'une défiance envers l'Union européenne ? Un tel scénario est-il possible en France ? On en parle dans un instant. Et puis la réforme des retraites voulue par le gouvernement, ça s'accélère. Avec quelle stratégie ? Quel risque pour l'exécutif ? Alors que Bruno Le Maire alerte, nous sommes à l'euro près. On reviendra aussi sur ce terrible viol à Nantes ce week-end. Une femme victime de 3 Soudanais en situation irrégulière. Un policier blessé lors de l'interpellation. Le procureur de Nantes qui doit s'exprimer dans une trentaine de minutes. Ce sera à vivre en direct sur CNews. Et puis la question des obligations de quitter le territoire avec cette affaire. Un multirécidiviste s'en est pris très violemment à son escorte, à sa reconduite à l'avion. On va en débattre, on en décrypte cet après-midi avec vous, Jean-Michel Fauvergue. Bonjour.
Bonjour.
Ancien patron du RAID, à vos côtés François Pupponi. Bonjour.
Bonjour.
Ancien député Régis Le Sommier, grand reporter. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute dans un instant, mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Mathieu Devez.
Plus de 1200 personnes arrêtées en Iran depuis le début des manifestations. Elles ont commencé le 16 septembre, date du décès de Mahsa Amini. L'étudiante avait été interpellée 3 jours auparavant par la police des mœurs pour un voile mal porté. Et selon un bilan officiel, 41 personnes ont été tuées en 10 jours de protestations. La mobilisation partielle décrétée par la Russie continue d'agiter le pays. Un homme a ouvert le feu aujourd'hui dans un centre de recrutement de l'armée russe en Sibérie. Un militaire a été blessé et placé en réanimation. Le suspect, un habitant âgé de 25 ans, a été arrêté. Et selon sa mère, celui-ci était très peiné car son meilleur ami avait reçu la veille un avis de mobilisation. Enfin, le gouvernement a présenté son budget pour 2023, le premier projet de loi de finances du second mandat d'Emmanuel Macron. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la France est à l'euro près et donc prudente sur toute nouvelle dépense. Parmi les mesures annoncées, une enveloppe de 935 millions d'euros pour financer une augmentation du salaire des enseignants. Et comme on parle budget, c'est l'heure de la chronique éco avec Éric de Rydmaten.
Votre programme avec Lesia. Assureur d'intérêt général.
C'est le paradoxe. Dans ce nouveau budget, on s'attendait à un serrage de vis. Eh bien, au contraire, le gouvernement va augmenter la dette de l'État. Il va lancer un méga emprunt historique, d'ailleurs. En 2023, on parle de 270 milliards d'euros. Cela est justifié par la situation économique actuelle. Et puis, des fonctionnaires vont être recrutés. Presque 11 000 nouveaux agents de l'État, notamment pour la justice, l'éducation nationale et l'outre-mer, ce qui met fin à toute volonté de l'État de réduire la taille de son administration. Alors, le gouvernement explique toutefois que désormais, toute nouvelle dépense sera quasiment impossible. Place aux économies. Des économies, il y en aura, a dit Bruno Le Maire. D'abord parce que les aides liées au plan de relance vont s'arrêter ou on va diminuer. Deuxièmement, les aides avec le bouclier fiscal seront moins importantes en 2023. Le bouclier sera moins protecteur. En revanche, il y aura bien des dépenses nouvelles, d'où ces emprunts dont je parlais. Il faut financer l'écologie. Le problème, c'est que tout cela se fait au prix fort, car en effet, les taux sont en train de monter en flèche et la charge de la dette également augmente. Elle va passer de 42 milliards cette année à 60 milliards rien qu'en intérêts en 2023.
C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
Et 90 minutes info, c'est parti. On va commencer avec l'Union des droites qui remporte ses élections législatives en Italie. La candidate de ce bloc, Giorgia Meloni, a en tout cas revendiqué cette victoire. On va retrouver Valérie Labonne sur place. Valérie, bonjour. Alors on parle d'un fait inédit. Quelle est l'atmosphère en Italie aujourd'hui ? Comment cette victoire a-t-elle été accueillie sur place ?
Alors, sachez qu'ici, évidemment, tout le monde s'attendait à ce que cette coalition de droite formée par le parti Fratelli d'Italia avec le parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia et la Ligue du Nord de Matteo Salvini remporte ces élections. C'est chose faite. Maintenant, il va falloir se décider à entamer les négociations pour nommer ce nouvel gouvernement. Et ça va prendre quelques temps. D'abord, il faut qu'ici, là où nous nous trouvons dans le ministère de l'Intérieur, les résultats définitifs soient soit édité, mais il nous reste quelques heures pour que ça soit le cas. Et puis ensuite, les députés vont avoir une vingtaine de jours pour se retrouver au sein du Parlement. Ils vont d'abord devoir élire leur président de parti. Et puis ensuite, le président de la République italienne va lancer le round de négociations pour nommer les ministres et le gouvernement. Alors sachez qu'ici, cela peut prendre plusieurs semaines, entre 4 semaines et parfois jusqu'à 3 mois pour trouver un consensus et que ce gouvernement se fasse. Alors les Italiens ici sont un petit peu résignés. Ils savent qu'il vont falloir, il va falloir qu'ils fassent preuve de patience pour connaître le nom de leur futur Premier ministre. Mais théoriquement, cela devrait être Giorgia Meloni, d'après les résultats de ce scrutin qui est sur le point de se terminer.
Merci beaucoup Valérie pour toutes ces précisions. Valérie Labonne en direct de Rome. Un petit tour de table peut-être pour commencer. Cette victoire de Giorgia Meloni, en tout cas l'Union des droites le revendique aujourd'hui. Comment est-ce que vous l'avez observée, Jean-Michel Fauvergue?
C'est une victoire qui était annoncée depuis quelque temps et c'est une victoire effectivement de coalition des droites avec le parti de Meloni qui a une majorité à peu près de ou à peu près 25% si mes souvenirs sont exacts. Il faut l'analyser aussi à l'aune de ce qui se passe en Europe d'une manière générale et ce qui se passe dans notre pays déjà, ce qui s'est passé dans notre pays. Je rappelle qu'on a 89 députés du Rassemblement national, de ce qui se passe dans les pays nordiques aussi, par exemple en Suède. On voit que actuellement il y a une poussée de ces camps de droite et de droite extrême. Et qui arrive maintenant en Italie avec une abstention qui est importante pour l'Italie, à peu près un peu plus d'une trentaine de pourcents, et un scrutin qui pour la première fois a introduit 2/3 de proportionnel et a baissé le nombre de députés et de sénateurs, ce que l'on doit souligner puisque c'est une chose que nous avons essayé de faire et que pour l'instant nous ne sommes pas parvenus. Et en même temps que les élections de l'Assemblée nationale, il y avait les élections au Sénat qui ont donné aussi vainqueur la coalition de droite. Donc la coalition de droite pour l'instant va avoir tous les pouvoirs à ce niveau-là. On verra comment ça fonctionne et en particulier ça a été soulevé face à l'Europe et comment la nouvelle future ministre italienne va se positionner par rapport à l'Europe.
Alors beaucoup de réactions depuis hier soir. Régis Le Sommier, Emmanuel Macron qui vient de réagir justement, il a dit respecter un choix démocratique et appelle à œuvrer ensemble finalement. On a aussi en tête les propos vendredi dernier d'Ursula von der Leyen qui avait mis en garde le peuple italien.
Et je pense que ces propos ont clairement, enfin la façon dont ils ont été exploités, on comprend même pas pourquoi Ursula von der Leyen les a prononcés, parce que je pense que ça a été en défaveur de l'Europe, enfin de ce qu'elle représente elle en Europe, et ça a plutôt accéléré à mon avis la tendance des Italiens à voter pour cette coalition de droite contre justement cette Europe, et ça manifeste ces propos d'Ursula von der Leyen. Vous avez tout à fait raison de les souligner ou de les rappeler, parce qu'on est précisément dans le cœur du problème européen. C'est-à-dire qu'il y a des institutions, il y a cette présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui professe des menaces, qui applique des sanctions. Je rappelle que l'Europe a déjà pris des sanctions parce que des partis populistes étaient arrivés en Europe, au pouvoir. Souvenez-vous de Jörg Haider en Autriche en 2009. Il y avait déjà eu des sanctions. Il y a eu des sanctions contre la Roumanie, il y a eu des sanctions contre la Hongrie, contre la Pologne, pour des dérives dites illibérales. Donc il y a une sorte d'impression qu'Ursula von der Leyen et ses instances européennes seraient un peu les gardiens du temple. Mais là où il y a un vrai problème, c'est que ces gens-là ne sont absolument pas élus. Ils n'ont pas été désignés par ne serait-ce qu'un corps électoral d'Européens, ils ont été nommés. Et ils se permettent, et elle s'est permis justement de dire aux Italiens, attention, si vous allez dans ce sens-là, nous pourrions prendre des sanctions. Et là, on a un vrai divorce. On a un vrai divorce entre une Europe qui se fait avec en effet des dérives populistes qu'on peut noter à droite et à gauche, mais qui représentent quand même bien une tendance, et plutôt que les nations parlent, que les nations finalement décident d'elles-mêmes, et puis cette espèce de superpuissance extrêmement impopulaire, parce que regardez quand même, à chaque fois qu'il y a eu une élection européenne en général, ce sont les partis anti-européens qui l'emportent presque tout le temps. Donc on a l'impression qu'il y a un décalage de plus en plus important entre ces instances européennes, gardiennes du temple de la démocratie et de certaines valeurs, et puis des partis populistes qui aujourd'hui se répandent un petit peu partout. Alors attention, c'est pas la première fois en Italie. Matteo Salvini avait déjà été président du Conseil des ministres, donc c'est pas la première fois qu'il y a une représentation de droite populiste au pouvoir en Italie.
François Pupponi, quand Emmanuel Macron dit respecter un choix démocratique, est-ce que finalement, il ne distingue pas aussi des propos d'Ursula von der Leyen avec cette phrase ?
Non, mais il a raison de le faire. Il y a une démocratie, les Italiens ont voté, et on doit respecter le vote des Italiens. Je voulais qu'on dise d'autres. Et sincèrement, Ursula von der Leyen a tout faux. Moi, je connais bien l'Italie, j'ai beaucoup d'amis italiens, et depuis des années, ils critiquent une certaine Europe qui leur impose, en particulier, on connaît le problème de Lampedusa, mais pas seulement, l'arrivée de réfugiés sur le sol italien. Et les Italiens, qui ont en plus un problème de déclassement économique pour les classes moyennes, n'y arrivent plus et n'en veulent plus. Voilà. Et plus ils disent, mais on n'en veut plus, parce qu'effectivement, il y a eu déjà des votes précédents sur Matteo Salvini ou d'autres partis de droite, pour pas dire d'extrême droite, plus ils le disent et plus l'Europe continue. Voilà. Et là, von der Leyen va leur faire la leçon en disant « Vous avez intérêt à bien voter. »
Jours avant le scrutin.
Mais pour qui, de quel droit d'ailleurs ? Elle n'a aucune légitimité démocratique. Et on voit le résultat. Et moi, ce qui me sidère dans tout ce qui se passe, c'est qu'après la Suède, la Hongrie, la Pologne, maintenant l'Italie, on se rappelle le score de Marine Le Pen en France aussi.
Ce serait possible ? Un tel scénario est-il possible en France ?
On parle de mettre le scrutin proportionnel, dans un vote à la proportionnelle. Et qui aurait pu imaginer que dans un vote au scrutin uninominal que nous avons, il y ait 90 députés à l'Assemblée nationale ? Voilà, donc ce qui paraissait impossible il y a encore quelques mois, c'est maintenant est arrivé. Bon. Et donc on voit comment dans tous les pays, les électeurs, ceux qui votent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Italie, il n'y a que 61%, il n'y a que 9% de moins que précédemment, donc il y a un Italien sur trois qui n'a pas voté, ceux qui votent disent à leurs gouvernants et aux institutions européennes, nous ne voulons plus de cette politique. Si les gouvernants et l'Europe ne le comprennent pas, on n'est pas loin de la catastrophe.
On va écouter justement sur la question de la défiance envers l'UE, c'est ce qu'a souligné le président du MOTEM, François Bayrou.
Vous sentez bien l'espèce de vague de dérive qui existe dans toute l'Europe. Je crois qu'il y a une très grande inquiétude chez les peuples et à laquelle il faut répondre. Une inquiétude qui tient aux questions d'identité, de leur identité, et une inquiétude qui tient aussi aux difficultés que la démocratie dans ses structures et dans ses modes de décision, dans la manière dont elle fonctionne, peut répondre aux attentes qui sont parfois brûlantes des peuples.
Alors justement, Jean-Michel Fauvert, pourquoi l'Union européenne aujourd'hui, elle n'arrive plus à parler aux peuples, notamment sur ces questions d'identité, par exemple ?
Est-ce que l'Union européenne a déjà réussi à parler aux peuples ? En fait, l'Union européenne, c'est un rassemblement d'États membres. Et d'ailleurs, l'exécutif européen est compliqué, puisqu'on a von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, qui représente les intérêts de l'Europe, de cette Union européenne. Mais à côté de ça, on a le Conseil européen, qui est aussi l'exécutif représentant des États membres. Donc on a quand même une gouvernance qui est difficile en Europe, mais elle est difficile parce que l'exercice est difficile. Mais jusqu'à présent, il faut quand même bien se rendre compte, même si on doit critiquer l'Europe, que c'est un territoire de paix, de prospérité, en tout cas pour l'instant, même si l'Europe est à la limite, un territoire de paix, de prospérité, et avec le premier marché au monde. Donc ça, ça doit être protégé. Mais effectivement, il faut aussi répondre parallèlement à ces injonctions de nos concitoyens, de tous les concitoyens européens, et pas forcément que en France, en Italie, en Suède. Je signale que en Allemagne, on a un parti extrémiste de droite de plus en plus fort aussi. Il faut répondre à ces interrogations. D'abord, effectivement, sur une émigration débridée, laquelle l'Europe a du mal, en étant à l'unisson, a du mal à combattre ces vagues d'immigration. Et plus ça va, plus effectivement la question des identités se pose. Et la deuxième préoccupation, c'est une préoccupation sécuritaire. Chaque État a des problèmes sécuritaires importants de sécurité. En France, en Suède récemment, qui n'est pas dans une meilleure posture que la France. Donc, il faudra répondre à toutes ces questions-là si on veut pas que l'Europe soit mise en cause à chaque fois.
Alors la première ministre Elisabeth Borne a dit qu'elle sera attentive au respect des droits de l'homme. Alors avant de vous poser la question de savoir s'il y a un risque à identifier, on va peut-être voir ce petit sujet qui nous parle du cap du programme justement de Giorgia Meloni. Regardez.
C'est un programme aux valeurs conservatrices que propose Giorgia Meloni. Les questions de libertés individuelles et d'identité nationale sont au centre de ses préoccupations. Sa campagne, marquée par la devise « Dieu, patrie et famille », met en avant une civilisation fondée sur les valeurs chrétiennes. Elle refuse par exemple l'adoption d'enfants par des couples homosexuels et propose d'accrocher un crucifix au mur des écoles.
Si vous vous sentez offensé par le crucifix, ce n'est pas ici que vous devez vivre. Nous nous battrons contre l'islamisation de l'Europe parce que nous n'avons aucune intention de devenir un continent musulman.
Face à une Europe en crise, Giorgia Meloni préfère placer les intérêts nationaux devant l'unité des 27. Si sortir de l'euro ne fait plus partie de son programme, elle entend changer de ton face aux institutions.
En Europe, ils sont tous inquiets de voir Meloni au gouvernement, mais ils disent ce qui va se passer. Je vous le dis, ce qui va se passer, la fête est finie.
Les partis de droite se sont aussi engagés à réduire les impôts, augmenter le taux de natalité via une protection de l'emploi pour les jeunes mères, ou encore continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie.
Alors Régis Le Sommier, je le disais, Elisabeth Borne a dit qu'elle sera attentive au respect des droits de l'homme. Vous identifiez un risque dans ce sens, vraiment, quand on vient d'entendre ce qu'on a entendu ?
Alors, je ne sais pas exactement ce à quoi Elisabeth Borne...
Je crois qu'elle parlait à la question de l'avortement.
Sur la question de l'avortement, je pense que oui, c'est en effet les valeurs défendues par... Giorgia Meloni vont dans le sens effectivement elle est elle-même contre l'avortement. De là à ce qu'elle mette à exécution et que l'avortement soit interdit en Italie, on en est loin. D'ailleurs, on en est beaucoup moins loin qu'aux États-Unis, par exemple. Mais en revanche, sur la question des droits de l'homme, si on étend cette question aux droits des homosexuels, etc., je pense que c'est beaucoup moins à risque qu'un pays comme la Pologne, par exemple, ou que la Hongrie, qui eux ont pris des mesures anti-LGBT. Et donc beaucoup plus radical. Donc je ne pense pas qu'il faille tout de suite, je dirais, agiter ce chiffon. Il s'agit d'une coalition, encore une fois. Il y a Silvio Berlusconi qui est dedans. On me dira, oui, Silvio Berlusconi, il a déjà fait des coalitions avec des partis d'extrême droite, mais il y a Matteo Salvini. On est quand même dans une forme de démocratie. Ça reste de la démocratie à l'italienne. Ce sont des coalitions, comme en Allemagne. On n'a pas beaucoup l'habitude, nous. Il y a une tête d'affiche, Giorgia Meloni, mais une coalition, ça demande beaucoup de concertation. C'est d'ailleurs à cause d'un des partis qui était en la coalition 5 étoiles que Mario Draghi a chuté. Donc une coalition, c'est éphémère. Il y a des différences entre, par exemple, parler de la question de l'Ukraine. Giorgia Meloni défend l'Ukraine. Matteo Salvini était plutôt du côté de la Russie. Donc au sein de la même coalition, il y a aussi beaucoup de différences. Non, je ne crois pas que les droits de l'homme soient menacés en Italie à cause de cette coalition. Et encore une fois, rappelons-nous que Matteo Salvini a déjà été au pouvoir. Il n'y a pas eu de chasse aux homosexuels, il n'y a pas eu d'interdiction des cliniques d'avortement, il n'y a pas eu de recul des droits. Donc cette remarque me paraît un peu prématurée et plutôt plutôt, je préfère celle d'Emmanuel Macron qui dit, voilà, respecter le choix des électeurs et ensuite, après, on attend pour voir, puisque ce sont les Italiens qui décident.
François voilà. Pupponi, oui. Elle vous fait peur, cette union des droites au gouvernement aujourd'hui ou pas?
Elle n'a pas à me faire peur ou pas peur. C'est-à-dire que les Italiens ont voté. Voilà, après, on va regarder, on va observer, et puis peut-être qu'on aura des désaccords. Mais sincèrement, je pense que la déclaration d'Elisabeth Borne était un peu maladroite. Celle du président Macron est tout à fait de ce qu'il faut dire. Voilà, il y a eu un vote, on en prend acte. Puis après, au sein de l'Union européenne, on défendra chacun nos positions et on évitera que les choses se passent mal. Mais vous savez, moi, vous connaissez ma proximité avec la communauté arménienne. L'Europe fait la leçon aux Italiens qui ont voté. La même Ursula von der Leyen s'est précipitée chez Aliyev, qui est un dictateur, qui extermine les Arméniens pour acheter du gaz. Donc là, quand il s'agit de leur propre intérêt, les droits de l'homme, on n'en a rien à faire. On est capable de laisser les Arméniens se faire exterminer, d'aller négocier avec celui qui les extermine, et puis après, on veut faire la morale aux Italiens. Tout ça, c'est tout ça que les gens ne supportent plus. Voilà. Les Italiens ont voté, démocratiquement. Regardons, observons. Et ils sont dans un pays qui a signé des traités européens qu'ils devront respecter. Voilà. Donc laissons faire les choses. Après, on peut être inquiet, bien entendu, inquiet qu'un parti post-fasciste se retrouve en Italie avec une première ministre, a priori, et chef du gouvernement, qui dans sa jeunesse, était plutôt admiratif de Mussolini.
Bon. Là-dessus, si je peux...
Je finis là-dessus.
Le MSI en Italie, c'est quelque chose... On a souvent du mal à le comprendre, mais c'est un parti qui effectivement est post-fasciste. C'est un parti qui existe depuis l'après-guerre. Il n'y a pas eu de défascisation en Italie comme il y a eu une dénazification en Allemagne. Et il y a toujours eu cette composante politique. Elle a toujours existé. Et elle a été réformée par Gianfranco Fini, qui était un de ses leaders, qui a abandonné une grande part de l'héritage de Mussolini. Alors, quand elle avait 15 ans, effectivement, Giorgia Meloni, on pouvait lui dire, oui, elle a eu des propos sur le Duce, mais beaucoup... Beaucoup d'Italiens ont eu d'ailleurs des propos disons que Mussolini avait eu voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un peu vieux tout ça, c'est un peu, je pense que lui faire grief de ça, alors oui, c'est une droite populiste conservatrice, mais revenir sur l'héritage de Mussolini, bon.
Juste pour finir, je pense que les dirigeants européens devraient s'interroger comment cela est possible. Est-ce qu'on n'a pas, nous dirigeants européens, une part de responsabilité?
Il nous reste un peu plus de 2 minutes, peut-être, se poser la question. Est-ce qu'un tel scénario, en France, ça pourrait, selon vous, exister? Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas marché, hein, dernièrement, Jean-Michel Fauvergue.
Ça n'a pas marché dernièrement, on l'a vu sur les législatives, quand même, on se retrouve avec...
Une union des droites, en tout cas.
Ah, l'union des droites, oui, tout à fait. On a quand même dans la représentation de l'Assemblée nationale une représentation ouverte à la droite la plus extrême aujourd'hui avec 89 députés si mes souvenirs sont exacts. Est-ce que ça peut arriver en France? Tout est possible, tout dépend des évolutions des choses à un certain moment. Les unions sont toujours possibles et probables. On avait d'ailleurs ce projet-là avec Marion Maréchal, qui incarnait ça. Bon, elle s'est trompée de voix visiblement et pour l'instant elle est un peu sur le reculoir, mais oui, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut très bien arriver si on n'y prend pas garde et si on ne fait pas, comme a dit François, c'est-à-dire que si on ne répond pas aux attentes des gens qui sont chargés de voter et qui, à un certain moment, ont des demandes à faire. Et ces demandes, elles sont... à un certain moment, identique en Italie, comme en France, comme en Espagne, comme un peu partout. La demande, c'est une demande, c'est entre autres, en ce moment, il y a une demande de pouvoir d'achat, c'est une demande conjoncturelle, espérons qu'elle le reste, conjoncturelle, mais on a des demandes structurelles qui sont sur la sécurité, sur l'immigration qui est en lien avec l'insécurité, parce que justement. Ça existe aussi. Et donc, il faut y répondre.
Justement, on va en parler de l'insécurité, de la sécurité, notamment à Nantes, avec ce terrible fait divers. Ça s'est passé samedi matin. Une femme de 40 ans, violée par 3 individus, 3 Soudanais, en situation régulière. Il y a des Soudanais qui ont blessé les policiers lors de l'interpellation. On va en parler dans un instant avec vous. Mais tout de suite, on marque une pause et on revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de 90 minutes info, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va parler de ce fait divers terrible à Nantes avec Jean-Michel Fauvergue, François Pupponi, Régis Le Sommier qui sont toujours avec nous. Mais avant, un point sur les dernières actualités et on démarre avec le gouvernement qui a présenté son budget pour 2023, le premier projet de loi de finances du second mandat d'Emmanuel Macron. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la France est à l'euro près et donc prudente sur toute nouvelle dépense. Sur la question des retraites, le gouvernement décidera d'ici la fin de la semaine. On écoute Bruno Le Maire à la sortie du Conseil des ministres.
Nous mettrons également en œuvre une réforme des retraites. Nous pouvons le faire de manière juste, à un rythme raisonnable, en garantissant l'efficacité de cette réforme qui doit permettre de financer notre modèle de protection sociale. Nous refusons la solution de facilité qui serait d'augmenter les impôts pour financer notre modèle de protection sociale. Et nous estimons que la seule manière de financer la solidarité, de financer notre modèle de protection sociale, nos hôpitaux, nos crèches, nos collèges, nos lycées, nos universités, ce modèle auquel nous sommes tellement attachés, c'est d'avoir un volume de travail plus important de notre pays. Et je rappelle par ailleurs que le président de la République a reçu mandat au moment de l'élection présidentielle pour réformer les retraites.
Et la commission des finances, elle, critique ce budget, des dépenses jugées insuffisantes pour Éric Coquerel. En conférence de presse, le député LFI et président de la commission des finances de l'Assemblée reproche notamment au gouvernement la baisse des dépenses publiques. Écoutez-le.
On va dire un peu moins de baisse de dépenses publiques, mais pour autant, et c'est, le deuxième reproche que je pourrais faire à ce budget, il continue à garder en optique l'idée que l'impératif, c'est quand même que l'État dépense moins, qu'il y ait moins de dépenses publiques et qu'on baisse les impôts des entreprises et de nos concitoyens les plus riches, c'est-à-dire en gros une politique de l'offre, de la compétitivité et malgré tout de baisse des dépenses publiques.
Et on en vient à la victoire de l'Union des droites en Italie. Le président français Emmanuel Macron a réagi il y a quelques minutes. Il faut respecter un choix démocratique. La coalition qui récolterait environ 43% des suffrages. Matteo Salvini, dont le parti La Ligue appartient à cette coalition, vante selon lui une stabilité à venir. Écoutez-le.
Pendant la phase finale de la chute de Draghi, certains politologues disaient qu'absolument nous n'aurions pas dû faire tomber le gouvernement parce que sinon, l'économie préfère la stabilité, je pense. Donc, le fait de savoir que 5 ans de gouvernement stable nous attendent, un gouvernement qui s'adresse au marché parce que nous allons dépasser la phase de tous les petits aides, etc., pour faire quelque chose de plus stable. Ensuite, la Ligue, avec ses parlementaires, vont amener de la liberté d'entreprise, liberté d'éducation, liberté économique.
Plus de 1200 personnes arrêtées en Iran depuis le début des manifestations. Elles ont commencé le 16 septembre, date du décès de Mahsa Amini. L'étudiante avait été interpellée 3 jours auparavant par la police des mœurs pour un voile mal porté. Selon un bilan officiel, 41 personnes ont été tuées en 10 jours de protestation. Le récit de Kinson.
Cette Iranienne donne l'exemple. En brûlant son foulard, elle défie par ce simple geste la dictature religieuse de son pays. Dans la foule, la voix des hommes et des femmes s'unissent pour mener ce combat pour la liberté, souvent au péril de leur vie. En Iran, les voiles tombent. Des milliers de manifestants descendent chaque jour dans la rue. Les autorités répriment durement ce qu'elles considèrent comme une insurrection. Cette Iranienne, avec ses cheveux sans voile et attachés, a défilé contre le pouvoir. Elle est morte samedi soir. Ici, lors d'un enterrement, une femme montre sa rébellion au régime en se coupant les cheveux. Depuis New York, la dissidente iranienne Mahsa Alinejad dénonce les oppressions du régime et les droits des femmes bafoués.
Regardez cette photo de cette femme. Elle a été tuée d'une balle dans la tête. En voici une autre. Je dois dire leur prénom. Mahsa a été tuée. Après Mahsa, Anané a été tuée. Et là, une autre Mahsa. Mon Dieu, elle a 21 ans. Elle s'appelle Mahsa. Il y a tellement de personnes qui se font tuer.
Au départ, les opposants protestaient contre la mort d'une jeune femme, Mahsa Amini, est décédée après son arrestation par la police, car elle portait mal son voile. Selon son cousin, le régime fait toujours pression sur la famille pour qu'elle nie le meurtre de leur fille par la police des mœurs.
Mahsa reflète à elle seule la colère du peuple iranien. Mahsa a déclenché cette colère.
Les autorités tentent de répliquer en organisant d'autres manifestations pro-gouvernementales, mais la contestation ne faiblit pas. Plusieurs dizaines d'opposants ont déjà été tués depuis le début du mouvement et des centaines d'autres arrêtés.
On va parler de Nantes dans un instant, ce terrible fait divers. Mais avant, Régis Le Sommier, peut-être une réaction à ces manifestations en Iran. Est-ce qu'elles peuvent véritablement changer les choses ou pas? On sait que le régime est très fort là-bas.
Non, le régime contrôle effectivement et contrôle une grande partie de la société, on va dire. Les conservateurs sont nombreux. Il y a de façon sporadique depuis une vingtaine d'années des mouvements en Iran qui demandent plus d'émancipation. Alors là, en l'occurrence, c'est un mouvement spécifique qui concerne les femmes, mais qui concerne aussi en général l'emprise qu'a le régime des Mollahs sur la société en Iran. Donc c'est toujours difficile de dire. À chaque fois, c'est passé à l'époque d'Ahmadinejad, souvenez-vous. Il y avait eu une répression d'ailleurs aussi importante qu'aujourd'hui. Il y a eu des mouvements aussi au moment de l'assassinat par les Américains de Ramzan Qasem Soleimani, qui était le général iranien. Donc là, il y avait une sorte de un nationalisme iranien qui avait pris le dessus et qui donc il y a toujours des tensions dans la société iranienne. Il y a toujours des paradoxes aussi parce que il y a une double culture en Iran, c'est-à-dire que il y a cette obligation de comportement en public et puis à côté il y a des mouvements plus libéraux et par moments le régime des Mollahs joue un peu avec fait donner du bâton et puis après il y a des tolère un certain nombre de choses. Là en l'occurrence, il y a eu ce drame épouvantable. Il faut rappeler quand même la mort de cette jeune femme et qui a d'une certaine façon cristallisé un besoin d'émancipation des femmes qui n'est pas d'ailleurs propre à l'Iran. Hein. On sait bien quand même que dans pas mal de pays arabes sunnites également, la question de la police des mœurs est très présente. En Arabie Saoudite, elle est omniprésente. Donc la place des femmes, c'est toute la question de la place des femmes dans les sociétés islamiques.
Justement, François Pupponi, il y a une manifestation à Paris en soutien à ces femmes, des manifestants qui dénonçait une France trop silencieuse aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Iran.
Oui, l'Iran pose un problème, de par ce qui se passe dans le pays, pose un problème à l'extérieur. Hein. Tout le monde sait très bien que c'est eux qui essayent de manipuler le Hezbollah, être au Yémen et les acquis Israël. Il faut à un moment réagir. Alors, on ne peut pas continuer. Alors, moi, ce qui est terrible, c'est qu'en France, certains se battent en disant on nous empêche d'être musulmans et de porter le voile, et puis manifestent en disant pour soutenir les femmes iraniennes qui se battent, elles, pour leur liberté, pour leur choix, en fait. Et malheureusement, j'ai bien peur que ces manifestations qui vont continuer ne soient pas suffisantes pour renverser le régime. On a vu des contre-manifestations. Il y aura malheureusement d'autres arrestations et d'autres morts, puisque la police iranienne n'a aucun scrupule à tuer des manifestants. On l'a vu là, on l'a vu tout à l'heure avec vos images, à tirer à balles réelles pour tuer des manifestants.
Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. Ça fait un an que les talibans sont au pouvoir. Des femmes ont essayé de s'opposer. Ça a été d'ailleurs, c'est le seul. Vous vous souvenez quand les talibans sont revenus, on nous a dit le fils du commandant Massoud. On a parlé de divers composantes de la société afghane qui pourraient s'opposer à eux. Et en fait, en réalité, ce qu'on a remarqué, c'est que ce sont essentiellement les femmes qui ont essayé, au moment de la commémoration, de l'anniversaire de cette accession au pouvoir, de s'opposer au régime des talibans. Et en réalité, voilà, à chaque fois, ça ne va pas au bout. En tout cas, ça ne suffit pas à faire changer les choses.
Et on suivra bien évidemment l'évolution de ces manifestations en Iran sur CNews. On en vient à ce terrible fait divers. À présent, à Nantes, c'était samedi. Au petit matin, une femme de 40 ans, trois individus ont été interpellés pour le viol de cette femme. Trois Soudanais en situation régulière. Lors de l'interpellation, un policier a été blessé. On va faire un rappel des titres. On en parle tout de suite avec Mickaël Chailloux et on en débat ensuite.
C'est ici, en pleine rue, près des machines de Lille à Nantes, que le drame a eu lieu. Une femme de 40 ans est violée en rentrant chez elle, après avoir passé la soirée chez des amis. Des riverains, témoins de l'agression, donne l'alerte.
Je suis choquée en fait, choquée pour cette femme et outrée, et on en a ras-le-bol parce qu'on ne peut pas se balader en sécurité. Moi j'ai une enfant de 14 ans, il n'est pas question qu'elle se balade toute seule à partir de 20h. Quoi. Ça fait peur.
Selon le récit de la victime, trois hommes alcoolisés la suivent, lui demandent de l'argent, la frappent violemment au visage face à son refus, puis la violent à plusieurs reprises.
Il faut absolument que la justice soit rendue, qu'elle soit très ferme, pour que le message que l'on passe vis-à-vis de ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas les bienvenus à Nantes, et que nous faisons tout ici pour que ça ne puisse plus se reproduire.
Les trois suspects de nationalité soudanaise ont été déférés ce matin devant un juge d'instruction. Tous sont en situation régulière et deux d'entre eux seraient déjà connus de la police.
Je suis étonné qu'on renouvelle un titre de séjour à des gens qui sont connus des services de police pour des faits de matière pénale. Donc c'est clair, quand on vient en France pour faire des victimes, quand on vient en France pour créer du désordre, on doit être expulsé.
Un rassemblement citoyen contre l'insécurité aura lieu samedi à 15h, place Royale.
Jean-Michel Fauvergue, après ces faits, vous attendez à quoi de la part de la justice une expulsion ?
Ah ben, ça a déjà été dit par Mathieu Vallée sur votre antenne. Déjà, on s'étonne qu'il y ait un renouvellement de titres de séjour. Sans doute que les titres de séjour, compte tenu de la nationalité soudanaise des agresseurs, c'était un titre de séjour suite à une demande d'asile, forcément. La récompense que l'on a pour avoir accordé l'asile, c'est un viol et donc un délit de ce type-là. Bien évidemment qu'il faut la justice, il y a viol, donc la justice va se saisir de cette affaire-là. Il faut une peine exemplaire et à l'issue de la peine, non pas une OQTF, mais parce que ça sera judiciaire, mais une interdiction du territoire national. C'est-à-dire qu'à l'issue de la peine, ils soient forcément expulsés après leur peine qu'il se veut exemplaire. C'est comme ça qu'on va commencer à réguler. C'est comme ça aussi, pour faire le lien avec le sujet d'avant, qu'on va aussi donner quelques signe positif et nécessaire et logique en fait à une criminalité qui vient de l'extérieur.
Parce que effectivement, François Pupponi, c'est ce genre de faits divers terribles, absolument. Les Français n'en veulent plus, on en ras le
bol. Mais c'est tout simplement insupportable. C'est l'échec de notre politique d'immigration. Voilà. Soit on est capable d'accueillir ces populations, de les mettre dans des situations où les choses se passent bien, mais les accueillir, leur donner le statut, parce qu'a priori, ils avaient des cartes de séjour, etc., mais en les laissant plus ou moins dans la rue, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi des problèmes de squat, ou même, n'ayant pas le statut, ils restent quand même sur le territoire national, si on n'est pas capable de les renvoyer dans leur pays, ça entraîne des événements comme cela. Et Nantes, cette semaine, vous avez sorti la liste des communes les plus concernées par la délinquance, et Nantes fait partie de ces villes-là. C'est pas nouveau.
Dans le monde.
Après Mexico, enfin bon, dans le monde. Mais c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on le dit. Et pour aller de temps en temps, oui, effectivement, c'est un vrai sujet. Et on voit bien comment les autorités locales n'arrivent pas, alors que ce soit municipales ou nationales, n'arrivent pas à juguler ce phénomène-là. Et c'est ça que les gens ne supportent plus. C'est-à-dire l'incapacité des institutions à régler des problèmes comme cela, parce que celle que vous mentionnez le disait, on ne peut plus sortir dans ce quartier-là, on ne peut plus sortir le soir de chez soi, donc c'est nouveau. C'est pareil pour les quartiers où il y a du crack à Paris, enfin voilà. Donc les gens le disent et ça continue, ouais. Et le sentiment d'impuissance donné par les institutions, même si la plupart du temps elles essaient de faire des choses, ce sentiment d'impuissance fait que de temps en temps, les Français disent « c'est plus possible, on va voter pour les extrêmes ».
Et c'est tout le centre-ville de Nantes qui est touché aujourd'hui, puisque cette information CNews, je vous donne la parole ensuite, Régis, un Soudanais toujours de 35 ans en situation régulière, là encore, qui a été interpellé après avoir supposément brandi un couteau face à un riverain qui allait acheter des croissants. Il a crié « Allah Akbar, abat les Français, je vais les tuer ». Où il était en état d'ébriété, il a été arrêté par la police. Mais là, autre lieu, mais toujours à Nantes et dans le centre.
Non, le problème de Nantes, je dirais, il est assez emblématique des villes de l'Ouest, il n'y a pas que Nantes, hein, la ville de Rennes aussi,
Toulouse,
a connu une situation, mais je parle surtout, enfin, ces deux villes-là en particulier, parce que c'est des villes où il y a 20 ans, il y avait zéro problème, quoi, il n'y avait rien du tout. Nantes en particulier, c'était plutôt une ville bourgeoise, tranquille, et la situation s'est détériorée. Je dirais que ça remonte à l'époque, mais ce n'est pas nécessairement lié exclusivement, à l'époque de la ZAD. Et c'est là où a commencé à se déverser dans le centre-ville de Nantes un certain nombre de marginaux qui avaient été cristallisés autour de ce mouvement contre la présence de cet aéroport. Il y a aussi, de la part des autorités de la ville de Nantes et comme de celle de Rennes, une certaine tolérance et une certaine permissivité qui dure depuis pas mal de temps. Il faut savoir, par exemple, que Nantes fait partie des villes dans les réseaux de passeurs de migrants où on les encourage à se joindre. La Guillotière à Lyon, pareil. Ça fait partie des quartiers où on dit vous trouverez un point d'ancrage, vous trouverez des gens qui vont vous aider, etc., etc.
Ce qui explique qu'on y retrouve plusieurs Soudanais.
C'est aussi voilà, il y a pas de fumée sans feu, et effectivement c'est une sorte
de système mafieux au fond.
Bah, une sorte de réseau qui existe,
d'associations qui
font publicité en disant vous pouvez venir, et Nantes fait partie donc. Voilà. Après, si tout ça doit se faire, c'est bien de vouloir accueillir des gens, mais si ça se fait au détriment de ceux qui vivent sur place et que ça détériore et que ça tue leur vie sociale, vous entendiez cette dame tout à l'heure dire qu'elle ne peut plus sortir de chez elle, c'est quand même assez désolant de voir ce genre de choses, que au nom de principes universalistes, etc., et d'accueil, on en vienne finalement à détériorer la vie des gens et à l'empoisonner véritablement.
Jean-Michel, et puis on parlera de la question des obligations de quitter le territoire avec cette autre affaire à Marseille.
Oui, je rebondis sur ce qu'a dit Régis. Effectivement, c'est une dégradation lente qui s'est accélérée sur Nantes et sur d'autres villes, et pas que à ce niveau-là des villes nationales, mais il y a aussi effectivement des rôles d'associations qui sont complètement dévoyés. On a parlé cette semaine-là de l'association Utopia sur Paris, mais il y a d'autres associations de ce type-là qui favorisent l'implantation de migrants, qu'ils soient clandestins ou non, et qui créent des terreaux de criminalité. Et puis, une inaction aussi des communes en particulier, en ne recrutant pas les policiers municipaux, en baissant le nombre de policiers municipaux.
En refusant de les armer,
En refusant de les armer dans un certain nombre de villes.
Malgré leur demande.
Dont Nantes, et en ne collaborant pas avec la police, parce qu'on sait maintenant que pour tenir le terrain des grandes métropoles en particulier, il faut s'unir, il faut unir ses forces, et donc s'unir à la police nationale et la police municipale, faire des échanges comme c'est fait dans un certain nombre de villes. Là, ça n'est pas fait, ça n'est pas le cas, c'est pour ça qu'il n'y a personne dans les rues en termes en présence de bleus.
On va vous poser une question très concrète dans un instant, Jean-Michel. Après cette affaire, le résumé de cette affaire à Marseille, un multirécidiviste a été reconduit à l'avion pour expulsion et il s'en est pris très violemment à son escorte. Une escorte composée de trois policiers et le commando de bord a refusé l'embarquement. Les précisions d'Amaury Bucaud, on en parle ensuite.
Ça s'est passé à l'aéroport de Marseille. Un Algérien clandestin de 27 ans, visé par une obligation de quitter le territoire français, a été placé dans un vol Air France en direction d'Alger. Donc c'était jeudi dernier, l'homme était connu des services de police pour des faits de vol, de violence. Il était arrivé en 2019 en France avec un visa, mais n'avait jamais finalement fait de demande de régularisation. Et s'était donc vu délivrer une première OQTF, obligation de quitter le territoire français en 2020, puis une nouvelle en 2021, jusqu'à ce qu'il soit placé dans un centre de rétention administratif en vue de son expulsion, qui n'a donc finalement pas eu lieu, puisque ce dernier s'en est pris aux trois fonctionnaires de police chargés de l'escorter jusqu'à Alger dans l'avion. Il leur a craché dessus, les a mordus, les a frappés, et s'est montré finalement si agité que le commandant de bord de l'avion n'a finalement pas voulu embarquer avec lui. Alors les trois policiers ont été blessés, ils ont porté plainte contre ce ressortissant algérien qui sera jugé aujourd'hui en comparution immédiate pour ses violences contre les policiers, mais aussi pour une soustraction de mesures d'éloignement. Alors, ce genre d'événement n'est finalement pas si rare, nous disait un policier aujourd'hui. Je le cite, « Rien de nouveau, les expulsés hurlent, mordent, appellent à l'aide, se font vomir et vont jusqu'à s'enduire de leurs propres excréments. »
Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des questions administratives ou diplomatiques hein, pour expliquer pourquoi ces OQTF sont souvent très difficiles à appliquer. Je m'adresse aux policiers, on le voit là, il y a aussi des raisons très très concrètes. Hein.
Oui, quand là dans ce cas précis, il y avait tout pour l'expulser, y compris l'autorisation des autorités algériennes de le recevoir. On a beaucoup parlé de ça ces derniers temps. Là, tout était carré et il devait être expulsé. Mais effectivement, ce qui s'est passé, et votre reporter le dit très bien, ce qui s'est passé, c'est une opposition à l'embarquement, avec des coups portés, avec un certain nombre de choses qui fait que les policiers spécialisés de la police aux frontières, puisque ce sont des policiers spécialisés qui sont formés à ces techniques-là d'accompagnement, n'ont pu à un certain moment le maîtriser. Et le commandant de bord, qui est le seul maître à bord, après Dieu, a jugé préférable de ne pas l'embarquer parce que le vol se serait mal déroulé. Mais ça arrive effectivement des dizaines et des dizaines de fois.
C'est une stratégie au fond.
Bien sûr, c'est une stratégie. Parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va être jugé en comparution immédiate. Il va avoir quelques jours ou quelques... on sait pas trop ce qu'il va avoir exactement, mais après il va falloir le réexpulser. Et pour le réexpulser, il va falloir que les autorités algériennes redonnent le visa consulaire. C'est parce que le visa consulaire ne dure pas dans le temps. Et ils vont le redonner ou ne pas le redonner. Et donc les choses sont très compliquées. C'est une vision de la non expulsion des étrangers en situation irrégulière qu'il faut avoir présent à l'esprit. Ce job-là est un job très difficile pour arriver à ces fins.
On le constate, et effectivement, Régis Le Sommier, mais du coup, quelle solution? Parce que...
Les solutions, c'est compliqué et c'est dommage quelque part, enfin, que cet exemple arrive en ce moment, puisqu'il semblerait qu'au niveau précisément des autorités algériennes, il y ait une ouverture avec plus de bonne volonté de la part des Algériens pour récupérer leurs ressortissants délinquants graves et en tout cas délivrer des visas. Donc on arrive dans une situation en fait qui peut-être aussi montre qu'il y a un certain nombre de qu'on a accéléré le rythme des reconduites. Hein. C'est peut-être un exemple, alors que d'autres ont été faites. En tout cas, c'est souhaitable parce que jusqu'à présent, on s'est rendu compte quand même, notamment avec l'affaire de l'imam Iqiyoussem l'été dernier, que très peu d'OQTF étaient effectués. Notamment par rapport à des pays comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, etc., qui avaient un taux de reconduite beaucoup plus important. Donc il y a des mesures à prendre, parce que ça, ce sont des mesures extrêmement importantes. C'est pas simplement de dire je sais que le ministre Darmanin est quand même très très fort pour manier les statistiques parfois et les attirer et les rendre belles pour son propre compte, mais en l'occurrence, il y a des choses concrètes qu'attendent les Français, et ça, par rapport à ce que disait François tout à l'heure sur la question de attention, on ne peut pas jouer éternellement avec ces paramètres-là. Il faut que ces reconduites aient lieu. Il faut que on parlait des cas d'insécurité liés à des étrangers en situation irrégulière. Pour les Français, ce sont des choses qui sont insupportables aujourd'hui et qui motiveront un vote clair, allant dans le sens du RN, probablement, ou de partis apparentés. On est dans une situation où il y a un besoin que ces choses-là soient effectives.
Il est temps de marquer une pause, je suis obligé malheureusement de vous couper. On va marquer une pause, on va s'intéresser à une autre question qui intéresse les Français, celle des retraites, et ça s'accélère. Restez avec nous sur CNews.
Ils connaissent parfaitement le droit. Hein,
Et de retour sur le plateau de 90 Minutes Info, toujours avec Jean-Michel Fauvergue, François Pupponi, Régis Le Sommier. On va revenir dans un instant sur la situation, sur l'affaire Bayou. Son avocate s'est exprimée, mais tout de suite, le point sur les dernières actualités avec vous, Mathieu Devez.
Pour 2023, le premier projet de loi de finances du second mandat d'Emmanuel Macron. Le texte est marqué par la flambée des prix de l'énergie et parmi les mesures annoncées, la création de près de 11 000 postes de fonctionnaires l'année prochaine. Le Kremlin est ouvert à des relations constructives avec l'Italie. Une déclaration après la victoire aux élections législatives du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Et de son côté, le président français Emmanuel Macron dit respecter le choix démocratique des Italiens et appelle Rome à continuer à œuvrer ensemble.
Rihanna fera son retour sur scène pour la mi-temps du Super Bowl. La chanteuse a mis sa carrière musicale entre parenthèses ces dernières années pour se consacrer à ses différentes marques. Elle sera présente sur scène le 24 février à l'occasion de la finale du championnat de football américain, l'événement le plus regardé à la télévision chaque année aux États-Unis.
On va dire un mot sur la réforme des retraites qui s'accélère en fin d'émission. Mais avant, l'affaire Bayou, je vous le rappelle, accusé de violence psychologique par une ex-compagne, le secrétaire national d'Europe Écologie des Verts, a annoncé dans un communiqué démissionner de ses fonctions au sein de son parti. Son avocate s'est exprimée il y a quelques minutes. Je vous propose de l'écouter. On en parle ensuite.
Ce vulgaire déballage est indigne d'une société aussi avancée que la nôtre et Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades.
François Pupponi, Julien Bayou, les frais de quoi aujourd'hui? D'une instrumentalisation, comme on l'entend?
Non, mais les Verts, d'une manière générale, depuis longtemps, la NUP aussi, ont lancé une espèce de croisade, il fallait laver plus blanc que blanc, etc. Mais maintenant, c'est la chasse aux sorcières. C'est-à-dire, ce qu'a fait Sandrine Rousseau, c'est purement scandaleux. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit que, elle dit ça à la télé, à un soir de grande écoute, pour dénoncer des faits. S'ils sont délictueux, elle est députée. Elle doit mettre l'article 40 du Code de procédure en œuvre et saisir le procureur de la République. Si elle est au courant de faits délictueux, elle doit les dénoncer. Si elle ne le fait pas, elle fait une faute. Là, elle dit, c'est pas du pénal, mais c'est pas bien, et donc c'est pas bien ce qu'il a fait. Voilà. Et bon, et après, sincèrement, comme ils sont dans un engrenage où il faut laver plus blanc que blanc, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, je connais pas cette affaire. Ils démissionnent de tout. Reste député, ce qu'on peut comprendre, mais il démissionne de ses responsabilités chez les Verts, il démissionne du groupe, de la présence du groupe à l'Assemblée, et voilà, et y a pas de plainte. L'avocat dit, on a demandé 4 fois à être entendu pour s'expliquer, on ne l'a pas entendu, bon, donc il ne peut pas s'expliquer visiblement, et on lui dit, c'est pas bien ce que tu as fait, on ne dit pas ce que tu as fait, mais tu dois partir. Bon, si la politique c'est devenu ça, moi je suis inquiet pour l'avenir de notre pays.
Le règne de la suspicion, dit Julien Bayou, c'est cela selon vous? Il aurait dû partir ou pas, Jean-Michel Fauvergue?
Écoutez, il y a deux sortes de personnes, celles qui sont condamnées définitivement ou qui avouent. Il y a des cas récemment, Quatennens en particulier, ces derniers temps. Eux doivent partir, doivent démissionner, mais pas démissionner des fonctions dans leur parti, démissionner de leur poste de député en particulier. Et puis vous en avez d'autres sur lesquels il y a une suspicion ou une pseudo-suspicion. Et ils bénéficient de la présomption d'innocence et ils bénéficient d'un droit à une enquête fait par des professionnels, c'est-à-dire policiers ou gendarmes, et des magistrats. Et à partir de ce moment-là, ensuite, on se prononce sur leur culpabilité et on voit s'ils démissionnent ou s'ils ne démissionnent pas. Lui, il démissionne de lui-même. On en prend acte, mais il démissionne pour l'instant, en tout cas. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants de l'affaire, mais il démissionne sous, effectivement, une poussée en particulier de ses camarades à lui, et d'une poussée qui est tout sauf légitime, tout sauf morale. Enfin, il est cloué au pilori pour l'instant. Non,
c'est vrai. Allez-y, Agis.
Non, moi je trouve ça quand même étonnant de démissionner pour, comme quand on voit la teneur des propos de son avocate. Il n'y avait pas matière. Enfin, clairement, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de plainte. La démission, cette cascade de démission, enfin, de tous ces mandats, le met dans une position où on se dit, mais il y a forcément quelque chose. Et les propos de Sandrine Rousseau me rappellent un petit peu, viennent un peu en contrepoint de ceux de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de Quatennens. C'est-à-dire le soutien de Jean-Luc Mélenchon à Quatennens. Sandrine Rousseau veut montrer que chez les écologistes, on lave vraiment plus blanc que blanc. C'est-à-dire on est capable de faire la purge en interne, alors que voilà. Donc il y a aussi cette espèce de querelle de chapelle, à mon avis, qui est en filigrane. En tout cas, c'est un climat absolument épouvantable. C'est vrai que il est nécessaire de mettre en avant les questions des violences faites aux femmes, mais on se rend compte que ceux qui sont censés porter le plus ce combat sont tous finalement mouillés de près ou de loin dans eux-mêmes dans des violences. Hein, je veux dire l'affaire Tahar Bouhafs, les propos à l'époque de Clémentine Autain, qui ça fait très bien que pour essayer de déguiser, de cacher cette affaire, l'affaire Coquerel, Quatennens, maintenant Bayou. Ça commence à faire beaucoup de personnes qui sont censées être plus vertueux et parce que quand il s'agissait, souvenez-vous, de dénoncer Damien Abad, qui lui a ses torts aussi, mais là ils étaient vent debout et là tout le monde était voilà. Donc on est quand même dans une situation où des gens qui sont censés porter un combat se comportent de façon quand même substantiellement différent de ce combat, et je trouve ça absolument incroyable qu'on en arrive là, et s'auto-accuse. Alors bon, après
François Pupponi et non, Jean-Michel
très rapidement, je regardais les images de Julien Bayou devant l'Assemblée nationale, et il y a Adrien Taschet qui est derrière lui. Lui, il va être condamné pour avoir menacé, insulté, pour pas dire frappé des policiers. Il n'a pas demandé de démissionner. Hein. Donc visiblement, chez les Verts et chez la NUP, quand on insulte les policiers, c'est pas très grave. Par contre, lorsqu'on est suspecté, c'est très grave, les violences pédophiles, mais là, ça ne les a pas trop chagrinés.
Juste rajouter que ça rajoute justement à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le ras-le-bol d'un... des Français d'une manière générale, et leur peu d'empathie avec les hommes et les femmes politiques, immérités d'ailleurs, parce qu'on a des hommes et des femmes politiques de bon niveau, mais leur peu d'empathie à cause de ce type d'affaires-là, et qui maintenant, effectivement, éclabousse la NUPES. Mais il y a un vieux proverbe dans mes terres ancestrales qui disait: quand on crache en l'air, en général, on se mouille.
On va écouter François Bayrou et Elisabeth Borne qui ont réagi justement. Regardez.
Si quelqu'un s'est rendu coupable de ces pressions, de ces prises en otage dont on parle, alors il est normal que les conclusions en soient tirées, parce que il y a dans la fonction politique quelque chose qui est aussi d'exemplarité.
Alors je considère naturellement que c'est à la justice de décider, et je considère aussi que toute forme de violence contre les femmes est inacceptable, et peut-être que ce mouvement traduit aussi ça et la nécessité pour les partis politiques d'intégrer pleinement le fait que la violence contre les femmes, la violence au sein des familles, ça doit cesser, et qu'on est très mobilisé pour lutter contre les violences intrafamiliales, pour lutter contre les violences sur les femmes.
Parce que c'est vrai, Régis, au départ, ce combat pour dénoncer, empêcher en tout cas les comportements de certains hauts dirigeants, il est plutôt louable. Comment ça se fait qu'on assiste à cette dérive? Finalement, les féministes ont pris le pouvoir dans ces partis.
Oui, enfin, clairement, il y a dans l'attitude de Sandrine Rousseau une volonté de faire table rase autour d'elle. Ça, c'est clair qu'il y a une ambition de leadership qui se profile, et que tous ceux qui peuvent se mettre dans sa route méritent d'être exclus. Et donc, je dis pas que c'est elle qui nécessairement trouve, mais en tout cas, elle a trouvé une arme assez idéale. Mais ce qui est quand même, moi, je trouve, je vais revenir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la chose la plus étonnante dans cette histoire, c'est qu'ils sont censés être les plus progressistes de la société. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence faite aux femmes à droite ou dans d'autres partis, et qu'elles ne doivent pas être combattues, mais on se rend compte quand même qu'on est en face d'une sacrée bande d'olibrius quand on voit en plus la façon dont la NUPES en général et la France Insoumise et Sandrine Rousseau elle-même ont pu se comporter à travers leurs tweets pendant tout l'été, montrant une ignorance crasse de l'histoire, une relecture des choses, une façon de fouler aux pieds et de jouer avec l'antisémitisme. Enfin, on est quand même avec des personnages bizarres et dont finalement le caractère vertueux supposé n'est pas vraiment fondé.
Merci messieurs, c'est toujours trop court, hein, très intéressant. Passionnant d'être avec vous cet après-midi. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur CNews, bien évidemment. Punchline et Laurence Ferrari dans un instant. Excellente soirée sur notre antenne.